Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Cédric Chatelus. Aujourd'hui, nous recevons Christian Bobin et nous allons parler notamment de la confiance. Christian Bobin, bonjour.
Bonjour.
C'est une joie de vous accueillir à nouveau dans Les Racines du Ciel. Vous étiez venu, je crois, il y a 2 ans. Rediffusée, c'était une émission très joyeuse qui a marqué beaucoup de nos auditeurs et nous aussi. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes poète, vous avez fait des études également de philosophie. Vous vivez au Creusot, dans une maison au cœur de la forêt où vous vous consacrez entièrement à l'écriture. Vous avez écrit de très nombreux recueils de poésie, dont La part manquante chez Gallimard. Et le dernier ouvrage pour lequel nous vous invitons vient de sortir aux éditions de l'Iconoclaste, s'intitule « L'homme joie ». Et je tiens à dire d'ailleurs que c'est un énorme succès de librairie, c'est un livre qui est actuellement en tête des meilleures ventes et je me réjouis beaucoup que, grâce à vous, la poésie soit dans les grands succès de librairie. Alors c'est un livre, on va beaucoup en parler évidemment avec Lélie Anvar qui va nous faire des lectures de ce livre. C'est un livre qui parle à la fois de la mort, de l'amour, de Dieu, de la nature, de tous ces thèmes qui vous sont chers, de la vie en général. Et vous avez choisi pour comme thématique un peu centrale, pour en parler, la confiance. Pourquoi ?
Parce que c'est le soubassement de cette vie. Et il faut bien qu'il y ait un sol sur lequel marcher. Et parfois cette terre, la terre physique, la terre matérielle, mais aussi la terre psychique, s'effondre ou se lézarde. Et il y a un sol dessous le sol. Et ce soubassement, me semble-t-il, c'est la confiance. Je ne saurais dire en quoi ou en qui. Et peut-être c'est plus prudent de ne pas dire en quoi ou en qui, de ne pas fermer avec des définitions ou des mots ou même un visage. Ce dont je peux juste témoigner, c'est que traversant comme chacun de nous, traversant à certains moments des zones non tempérées, affrontant des pluies, des grêles ou le feu, j'ai malgré tout gardé cette confiance dans une réouverture des portes, dans un retour du ciel, de l'air.
Donc
toujours.
C'est une sorte de confiance, espérance.
Oui, c'est une sorte de tranquillité un peu étrange.
Est-ce que c'est une foi dans le fait que la vie est bonne ? Ce qui ressemblerait un peu à la confiance des stoïciens ou de tous ceux qui pensent qu'au fond, il y a un sens à la vie, que les choses ne sont pas absurdes et que tout advient pour le mieux malgré tout.
C'est difficile à répondre, à prolonger immédiatement le fil de votre question parce que il faut faire très attention à chacun dans cette vie et notamment à ceux qui sont en train en ce moment de nous écouter et qui ne croient plus à rien, désespèrent et ont toutes les raisons parfois de désespérer, ou à qui, ces gens à qui on vient d'arracher le cœur. Comment dire ? Je pense que le fond même fracassé de la vie délivre une certaine douceur, une étrange douceur. Parfois. Mais si vous apercevez cette douceur, comme on peut voir tout d'un coup la proposition des fleurs du cerisier, cette sorte de parole blanche qui vient vers vous, si vous l'apercevez une fois, c'est pour toujours. Ça, c'est ce que je ressens. Une fois suffit. Une fois suffit pour ensuite, les paquets de nuit comme des paquets de ténèbres ou d'eau glacée peuvent venir, ça n'a plus guère d'importance.
C'est comme si, ayant goûté une fois une joie immense ou une expérience intense du bonheur, on peut toujours se relier à ça pour toujours revivre des instants de joie ou de bonheur ou continuer d'espérer malgré tout.
C'est pas une chose qui, quand elle est arrivée, c'est pas une chose qui est dans la mémoire après. C'est une chose qui a,
c'est dans l'expérience.
C'est dans l'expérience.
Voilà, le corps a vécu ça.
C'est ça. Et donc, vous la portez tout le temps. Et c'est comme une... C'est comme une le rideau du temps s'est enflammé. Et donc, vous avez la chose, vous avez vu ce qui est derrière. Peu importe que le rideau soit reconstitué, il se reconstitue toujours. Toujours. Et parfois, ce rideau est même plus dur et plus épais qu'une muraille. Mais vous l'avez vu, ne serait-ce qu'une seconde, et cette seconde échappe au temps, vous l'avez vu. Vous avez vu ce qu'il y a derrière, et qui est toujours là.
Et vous vous souvenez de... Enfin, quelles sont pour vous ces expériences, peut-être qui viennent de l'enfance, j'imagine, parce que ça se construit dans l'enfance, la confiance, qui vous ont donné cette confiance dans la vie?
Vous savez quoi, j'ai l'impression parfois d'être victime, une victime très heureuse, d'une sorte de d'érotomanie angélique. Vous voyez, je m'explique. L'érotomanie, on sait ce que c'est. C'est par exemple, c'est Dante avec Béatrice. C'est-à-dire un clin d'œil d'une très belle femme, un cil, un battement de cils, et vous construisez autour une cathédrale, le Taj Mahal, et ainsi de suite. Et rien n'est jamais trop beau. Et vous faites venir 10 cieux là où il n'y en avait qu'un. Et rien ne sera trop beau. À partir de rien, de presque rien. Et il se trouve que j'ai le cœur ainsi fait que l'expérience dont je vous parle n'est pas localisable si facilement que ça. Elle revient sans arrêt dans un sens. Dernièrement, ça peut être un chant d'oiseau dans la forêt. Ça peut même être tout simplement cette sorte d'étrange nonchalance que présente une feuille morte quand elle est roulée par le vent. Elle est pourtant morte, elle est pourtant plus que morte puisque le vent la maltraite. Mais en même temps, je vois comme un signe de nonchalance à côté d'elle, c'est-à-dire de non-inquiétude. Donc je me dis, on peut donc être comme ça, poussière, on peut donc être maltraité à ce point, oublié de son arbre fondateur premier, et puis avoir cette absence de soucis, c'est merveilleux. Et cette expérience-là, elle revient à moi comme ça, et à chaque fois, elle a une figure différente. Ce n'est pas un événement que je pourrais mettre en tête d'une biographie, par exemple, disant, il m'est arrivé ceci, que je n'oublie plus. Ce n'est pas une question de mémoire, c'est une question de présent. Et à certains moments, dans le présent, les portes se rouvrent à nouveau.
Mais Christian, est-ce que vous avez toujours été comme ça? Parce que moi, je vous connais un petit peu. Mmh. Et je sais que vous avez cette capacité extraordinaire de vous émerveiller de tout, de toujours voir, comme vous venez de le raconter, à travers des petits détails du quotidien, de la nature, quelque chose de merveilleux. Et vous allez nous construire des pages sublimes à partir de ce petit rien. Est-ce que vous avez toujours été comme ça? Est-ce que c'est votre sensibilité?
Moi, je pense que je suis en lutte constante en même temps avec autre chose. C'est cette chose que je vais appeler le monde dans les textes. C'est parce que le monde, il est en moi avant d'être au dehors. Et c'est cette chose qui amène la nuit, qui amène la mélancolie. La mélancolie a une douceur très persuasive et très, très dangereuse. La mélancolie, c'est la pomme rouge du conte, hein, qui est tendue par la sorcière. Il ne faut surtout pas la croquer. Il est possible d'ailleurs qu'elle ait une très bonne saveur. Elle a sans doute une très bonne saveur. Dans un premier temps, je suis je suis en bataille en permanence, mais mes alliés sont innombrables. C'est cette feuille morte, c'est un chant de rossignol, c'est un poème qui s'enflamme sur la page. Là, je parle en tant que lecteur, pas en tant qu'auteur. C'est un visage qui me fait face et qui tout d'un coup est comme hors d'âge. Est comme baigné par les lumières du berceau ou de l'extrémité de la vie. Mes alliés sont innombrables dans cette lutte.
Et vous avez ma question, j'y reviens. Je vais vous persécuter. Mais est-ce que déjà enfant, vous aviez cette capacité de trouver tous ces alliés ou c'est venu progressivement?
Alors, je crois que c'est venu... Petit à petit, est-ce que je m'aperçois en vous répondant là, en vous regardant et en vous répondant que ce qui s'est passé dans l'enfance, c'est que tout se préparait. C'est-à-dire que j'ai accumulé du temps creux, du temps vide. J'étais un garçon assez sage et derrière une vitre et je regardais passer les passants. J'acceptais qu'il ne se passe rien.
D'accord.
Ça, c'est l'expérience peut-être de fond. Vous voyez, pendant très longtemps. Et je pouvais rester allongé avec le regard sur le plafond d'une chambre ou être devant, derrière une vitre et regarder la pluie, regarder, attendre sans attendre. C'est une drôle d'activité. Et je vous jure qu'elle est prenante. Attendre sans attendre. Et je pense, là vous m'aidez à penser que peut-être toutes ces années, j'ai fait comme un grenier, comme une provision de silence, d'attente. Presque désabusé au fond, d'attente non aveuglée par désespérance, une attente creuse, presque l'état d'un enfant abandonné, presque. Et puis, petit à petit, les choses sont venues me prendre par la main, et de plus en plus nombreuses, jusqu'à être innombrables, comme je vous le dis aujourd'hui, ce matin.
Et est-ce que vous savez à quel moment vous avez ressenti cette confiance dont on a parlé, est-ce qu'il y a une expérience qui vous revient en mémoire où vous vous êtes dit, je suis habité par cette confiance qui est inébranlable?
Mon père a beaucoup, beaucoup travaillé. La terre que je peux être, la chair et l'esprit que je suis ont été beaucoup travaillés par le soleil qui était mon père. Mais c'est très bien aussi de parler pour ceux qui ne sont plus là. La grande ouverture des grandes portes a été donnée il y a plus de 30 ans par une jeune femme qui n'est plus de ce monde.
Est-ce que c'est elle dont vous parlez dans ce livre, La Plus que Vive ?
Voilà, c'est celle que j'ai nommée La Plus que Vive dans un livre et à qui j'écrivais le carnet dans L'Homme Joie, le carnet que j'ai repris.
Tiens, préciser, vous avez écrit manuscrit, c'est-à-dire ce qui est très beau dans ce livre, c'est qu'il y a des textes manuscrits, ce qui est chose que vous n'aviez, je crois, pas fait à ce point-là. Oui. Et il y a tout un cahier bleu au centre du livre qui est cette lettre que vous avez écrite à La Plus que Vive, à cette femme. À quel moment vous lui avez écrit, parce qu'elle est décédée, donc à quel moment
au tout début de la relation, au tout début du lien. Et parce qu'il se trouvait qu'on était, la vie nous séparait à certains moments, elle était parfois un peu contrainte de s'éloigner, et donc à nouveau revenait l'attente, à nouveau revenait cette attente enfantine. Sauf que là, elle avait un centre, elle était aimantée par ce visage. C'est très simple, il suffit de voir, chacun a pu faire l'expérience que j'ai faite au fond. Simplement, c'est la personne qui change. Imaginez quelqu'un qui vous vient vers vous avec confiance et avec une sorte de joie. Voilà. Les enfants savent faire ça. Les enfants, ils viennent nous comme ça. Et imaginez que ce soit un adulte qui vient vers vous, parce que c'est possible après tout.
Et c'est ce qui s'est passé avec elle. Donc, elle est venue vers vous avec confiance.
Et son visage a balayé tout.
D'ailleurs, cette lettre que vous lui écrivez est une extraordinaire lettre d'amour. Je ne sais pas, Lélie, si vous pouvez nous en lire.
Je vais essayer de vous en lire sans pleurer comme à chaque fois que je la relis, mais ce n'est pas grave. Et surtout, hélas, je ne pourrai pas vous en donner la lecture intégrale, mais je vais en lire juste les premières pages. Et voilà, et je suis reprise de cette émotion qui m'a saisie quand je l'ai lue, mais ce n'est pas grave, je vais essayer de rester stoïque. Mmh. Il faut vous dire que ce livre m'a émue au-delà de ce que je pouvais imaginer.
Vous savez, il n'y a aucune différence entre... Dans le fond du fond, il n'y a aucune différence entre les larmes et les rires. Aucune différence.
Oui, bien sûr, c'est l'expression d'une... Parce que ce n'est pas triste en plus, c'est juste
triste.
Émouvant.
Oui.
Tu ouvrirais ce carnet. Tu verrais qu'il y serait question du ciel, de cette part du ciel qui reste en nous, électrisée, nocturne, sauvage, inaliénable. Tu verrais sur le bleu de ces pages la blancheur d'une étoile qui est celle aussi du ciel, du feu. Des mots passeraient sous tes yeux dans le matin de tes yeux, un mot comme celui-là, âme, l'âme. Un linge frais de soleil amoureusement plié, un drap d'or pour la couche des amants, liseré de noir, brodé avec les initiales conjointes de l'orage et de l'aurore. Tu lirais encore plus loin, vers d'autres mots. Tu lirais les mots précieux, les mots ruisselants, les mots princiers, ceux du désespoir, ceux les mêmes de l'espoir. Tu comprendrais alors. Tu comprendrais que dans chacun de ces mots, sur chacune de ces pages, il n'aurait été question que de toi, que de cette merveilleuse coïncidence entre toi et l'amour que j'ai de toi, entre toi et ces mots qui sont les miens pour te dire, entre toi et ces mots conçus dans la nuit, engendrés par ce désordre qui suit ton entrée en mon âme et qui la pacifie. Tu comprendrais que tu ne m'as jamais empêché d'écrire. Tu comprendrais que je n'ai jamais écrit que pour toi, même avant de te connaître, même dans ce temps, dans l'immensité sombre du temps précédant notre rencontre.
Merci.
Quelle déclaration d'amour. On se posait la question, est-ce que c'est une relation amoureuse que vous avez pu vivre pleinement ou on la sent comme presque impossible? Est-ce que je me trompe?
Un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Elle était vécue, mais il y avait des difficultés. Il y avait des voilà. Il y avait des
Et elle est décédée au bout de combien de quelques années?
Je l'ai rencontrée en 1980 à peu près, et puis elle est morte en 95. Donc
ça a quand même été une relation assez durable, et donc dans lequel finalement le développement de votre poésie, c'est à nourrir, on le comprend bien à travers ce que Lily vient de nous dire avec beaucoup d'émotion, on le comprend bien qu'elle vous a inspiré et que finalement ça a été peut-être le déclencheur.
Ah oui, mais la pauvre, je l'ai presque accablée peut-être.
Oh, il y a beaucoup de femmes qui seraient ravies d'être accablées par un poète amoureux.
Parce que on vient de lire un morceau d'un petit carnet, mais des carnets, il y en a eu des dizaines, des centaines comme ça, des centaines. Et tous les livres... Je tâtonnais ma voix dans l'écriture. J'avais à peine écrit avant de la rencontrer. À peine écrit. Et tout d'un coup, son visage a fait comme une plaque chauffée à blanc sur laquelle toutes les gouttes d'encre se sont venues danser comme ça. Tout s'est
aimanté. C'est une précipitation chimique.
Une précipitation chimique qui a porté son nom, qui s'éclairait de son visage.
Si je peux un peu revenir sur l'ensemble de ce que nous venons de dire et de lire... ça me frappe beaucoup que Frédéric vous pose des questions inscrites dans le temps historique et que vos réponses et votre livre sans cesse échappent à ce temps historique, à la biographie, aux dates.
Oui.
Vous résistez à cela comme si vous étiez ailleurs.
Oui.
Et je crois que vous étiez dans ce que j'appellerais peut-être un peu pompeusement, mais la méta-histoire. Vous êtes, à ce titre, pour moi, véritablement poète. Parce que la poésie... Et je comprends que Frédéric ait envie de savoir qui est cette femme et à quelle époque et quand, etc. Il a raison,
mais je
d'ailleurs.
Je dis ça parce que tous les lecteurs de Christian Bobin se demandent sur la question.
Évidemment.
J'ai la curiosité humaine.
Je ne vous cacherai pas que moi aussi, je me suis vaguement posé la question. Mais en même temps, je crois que ce qui fait que votre œuvre est poétique, et c'est la poésie, ce ne sont pas des vers, évidemment, là, c'est de la prose, mais c'est hautement poétique. Donc, ce qui fait que votre œuvre est poétique, c'est précisément que vous êtes hors temps, vous êtes ailleurs, et c'est peut-être cela qui sous-tend à peu près l'ensemble. C'est-à-dire quand vous dites, même quand vous parlez de la confiance, quand Frédéric vous demande, mais c'est quand le premier événement? Vous répondez, en réalité, cet événement est continu.
C'est ça.
Il m'a toujours habité.
Présent, voilà.
Ou vous dites, je passais des heures à regarder. En réalité, les heures, on ne pourrait pas les compter.
Non.
Le temps de la contemplation ne se compte pas. Et c'est vraiment le sentiment que l'on a. Aussi en lisant les mystiques, mais je crois que les mystiques sont aussi des poètes ou les poètes sont des mystiques, les vrais en tout cas, c'est que brusquement, c'est une sortie du temps. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus incroyablement émouvant. Et le point de suprême étant que pour vous, la poésie, c'est avant tout ce qui défie la mort, c'est-à-dire précisément le terme du temps qui nous est donné à vivre.
Elle la défie au sens propre d'ailleurs, au sens même très violent, elle défie la mort de venir et de prendre ce qui importe. Et l'autre recule. Ce qui est dans le creux de la main de la poésie, mélangé à la ferraille des jours et qui brille, n'est pas pris par la mort, n'est pris par personne, n'est pris par rien, et n'est même pas pris par celui qui le montre. Évidemment, ça n'appartient à personne. Mais c'est intouchable, c'est intuable, c'est infatigable. C'est les bijoux de cette vie continuent d'éclairer même les chairs disparues, même tout ce qui a disparu et qui disparaîtra. Et c'est pas grave que ça disparaisse. Mais les pierres précieuses taillées par le verbe. Elles ne passent pas, elles ne ternissent pas. Oui, elles ne ternissent pas. Et juste encore un mot sur le temps. J'ai toujours eu cette sensation dont je ne peux pas m'expliquer que nous ne vivons pas dans le temps. Bien sûr, nous vivons dans le temps. Il y a une part de nous, mais c'est cette part qui s'en va et qui passe au fil comme ça de l'eau, de la terre, et qui s'en va sous nos yeux. Il y a quelque chose qui est assez mystérieux, qui s'appelle la présence, qu'on a toujours du mal à nommer et qui n'appartient pas au temps.
Je suis évidemment d'accord avec tout ce que vous venez de dire. En même temps, je crois qu'on a aussi des moments fondateurs. C'est-à-dire qu'il se passe des choses,
ils échappent.
Oui, c'est-à-dire qu'on... oui et non. C'est-à-dire qu'on continue effectivement d'être habité par quelque chose. Oui. Mais en même temps, par rapport à la confiance, je suis persuadé que si on n'a pas vécu dans l'enfance des moments de rencontre avec sa mère, avec son père, avec des personnes qui nous ont regardés d'une certaine manière, ceux qui n'ont pas connu ça ne connaîtront peut-être jamais la confiance dans la vie. Et donc, je me pose la question, Christian Bobin, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut, et là au-delà de vous, est-ce qu'il ne faut pas finalement avoir dans la vie la chance peut-être d'avoir une relation amoureuse ou un regard sur soi qui nous permet d'avoir confiance en nous et dans la vie?
Personne n'est claquemuré en enfer pour jusqu'à la fin du monde, définitivement. Personne, absolument personne. C'est-à-dire que ce qui était refusé au départ peut être donné après. Parce que, et après, à ce moment-là, c'est simplement que l'origine du monde sera un peu plus tardive pour quelques-uns d'entre nous. C'est tout. Le premier matin viendra après beaucoup de nuits. Mais personne n'est voué aux flammes ou plutôt au glacé de l'enfer, parce que je l'imagine plus froid que chaud. Personne n'est voué à ça pour toujours. Vous avez raison, il faut que les choses soient données. Moi, j'aimerais que mes livres donnent ce qu'on m'a donné. Voilà. Et comme vous aimez bien, mon cher Frédéric, comme vous aimez bien les précisions, je peux vous dire que, voilà, je parlais de mon père. J'ai un souvenir de mon père. Il n'aimait pas que ses enfants manifestent une humeur chagrine le matin. Il y a des gens qui sont du matin, plus ou moins. Et puis, il y en a qui ne le sont pas du tout. Et puis, vous savez comment est l'adolescence. Et on a un visage comme un papier chiffonné, parfois. Deux ou trois fois, j'ai entendu mon père, comme ça, juste hausser la voix et dire « Mais je ne comprends pas que mes enfants fassent la tête le matin. » Parce qu'on est en vie, parce qu'on est tous ensemble, et puis on est en vie. Simplement le fait d'être en vie. Et dire que vivre, à sa façon, il disait que vivre, ça suffit. Pour combler au-delà même d'un sens, au-delà de tout. Ça, c'est une très très grande leçon. Mais elle peut vous être donnée à tout moment. Elle peut vous être donnée à tout moment, je crois.
Oui, d'ailleurs, vous avez en filigrane de votre livre, L'Homme Joie, effectivement, cette image de votre père qui revient, et en particulier dans un passage où vous parlez de lui en train de faire la vaisselle, et je crois qu'il vous a aussi enseigné comment il fallait faire la vaisselle, et quand vous ne l'avez pas écouté, vous vous êtes blessé. À la maison, un ange, clope au bec, faisait la vaisselle. Mon père tenait trois verres nettoyés dans sa main et me disait à chaque fois « Il ne faut surtout pas serrer, sinon ça éclate. » L'écriture, c'est pareil. Mes mains sont contentes de retrouver les assiettes fleuries, de les ressusciter sous une pluie d'eau chaude et citronnée. Faire la vaisselle est une activité métaphysique qui redonne à un morceau de matière un peu de l'éclat du premier matin du monde. Dans les lointains, une télévision accomplit sa morne besogne comme un bourreau tranchant sans émotion les têtes divines du silence et du songe. Un train de publicité déchire l'air, une pluie de miracles tristes s'abat sur le monde dont les prophètes sont des créatures jeunes, lisses, au sourire millimétré. Nous devons être très malheureux pour engendrer de tels rêves compensatoires. Les reliefs du repas glissent dans la poubelle, tandis que dans mon dos, les mannequins marchands dressent sur les ondes leur table infernale. L'absence de vérité dans une voix est pire que la fin du monde. On ne tord pas un rayon de soleil. La vaisselle renaît deux fois par jour. Son mouvement est celui des marées, une pulsation de l'énigmatique banalité des jours. J'aime faire la vaisselle à l'ancienne, à la main.
Philistin, épiciers, tandis que vous caressiez vos femmes, en songeant aux petits que vos grossiers appétits engendre. Vous pensiez, ils seront menton rasé, ventre rond, notaire. Mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir sur terre des enfants non voulus qui deviennent chevelus poètes. Vous pensiez ils seront menton rasé, ventre rond, notaire. Mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir sur terre des enfants non voulus.
Vous êtes sur France Culture en compagnie de Christian Bobin. Nous parlons de la confiance et nous parlons de son dernier livre, L'Homme Joie, aux éditions L'Iconoclaste. Christian Bobin, j'imagine que si vous avez choisi ce morceau philistin, que je ne connaissais pas de Brassens, si vous êtes un grand amoureux de Brassens, oui. Pourquoi ce morceau précisément ?
Ah, ce morceau précisément parce que d'abord c'est un poème de Richepin. C'est pas, le texte n'est pas de Brassens, mais il l'a choisi. Et ce qu'on choisit et ce qu'on porte se tache de notre nom aussi. Et... C'est un poème magnifique. C'est un poème très violent, comme on vient de l'entendre, mais la douceur, la violence des doux, comme pouvait être doux Brassens, elle est sublime, elle est magnifique. Ce qui me plaît, c'est l'apanage du désordre de la vie. La chanson dit en gros, vous pensiez, vous vouliez des enfants qui soient bien dans les cases, qui vous ressemblent dans vos manières mortelles de traverser ce temps. Et puis, et ben voilà, ben maintenant vous avez des poètes qui ne ressemblent à rien et surtout pas à vous. C'est-à-dire c'est le grand désordre des filiations et de la vie. On ne peut rien prévoir, on ne peut rien... La vie ne répond pas à nos volontés. On ne peut pas la capter, on ne peut pas la canaliser et on ne peut surtout pas... à engendrer, devenir des propres dieux en croyant qu'on s'engendre nous-mêmes et qu'on a engendré quelqu'un qui nous ressemble. La vie dément toutes nos constructions. C'est assez rude, mais c'est très drôle.
C'est un thème qu'on aborde souvent dans cette émission, hein, avec plusieurs de nos invités.
Oui.
Cette idée du lâcher-prise, de l'abandon, de la confiance, justement, dans la vie, qui traverse toute votre œuvre, hein, également. C'est un thème qu'on retrouve très, très, très souvent chez vous. Et alors, une chose qui m'a, puisqu'on parle de Brassens, une chose qui m'a aussi intéressé, parce que vous faites pas mal de petites confidences personnelles dans ce livre, c'est votre amour de Glenn Gould.
Oui.
Alors Glenn Gould, moi je l'aime aussi beaucoup. Vous savez, j'écoute tous les matins les Goldberg Variations dans sa dernière où il chante presque.
Oui.
Et vous, qu'est-ce qui chez Glenn Gould jouant Bach, qu'est-ce qui vous émeut le plus ?
Vous savez, on n'est jamais le même. C'est-à-dire que je l'ai aimé énormément et puis après je m'en suis éloigné. La pensée a fait que je m'en suis éloigné et la pensée, surtout quand elle est juste, nous égare. Oui, surtout quand elle est juste. Parce que j'ai pensé à un moment, oh, c'est trop froid cette manière de jouer. Et puis, il y a quelque chose d'autiste, il y a un espace autistique entre chaque note, il y a comme un désert entre chaque note. Et puis, je l'aime encore plus qu'avant maintenant. On est dans un troisième temps. Ce qui m'a donné un coup de cœur envers cet homme, c'est sa sauvagerie philanthrope. C'est-à-dire son retrait du monde pour construire quelque chose de scintillant, de généreux. Et de réjouissant pour les pauvres cœurs qui battent dans nos pauvres poitrines. Il y a sans doute rien de plus haut que l'échelle de Bach, que cette échelle sur laquelle les anges vont et viennent. Et il n'y a peut-être pas de plus étrange interprète que Glenn Gould. C'est-à-dire, là, je vais vous faire part d'une intuition qui, évidemment, que je ne peux pas... légitimé, c'est une intuition, c'est que quand nos yeux seront fermés définitivement à ce monde, il me semble que nous entrerons dans quelque chose qui ressemble très fort entre autres, à la musique de Bach ou à l'architecture secrète de certaines fleurs. Et il y a une architecture des sons dans l'interprétation de Gould qui pour moi est quasiment presque mystique, je dirais. En tout cas, qui est assurément poétique. Assurément poétique.
Et vous écoutez de la musique quand vous écrivez ou pas du tout ?
Dans un deuxième temps, quand je ronge mon petit morceau de pain d'encre comme ça, quand je corrige, quand j'essaye d'enlever, parce que c'est ce qu'il faut que je fasse. Je suis par moments terriblement sentimental et c'est pas très bon. C'est pas très bon. Il y a des choses qui me viennent trop machinales. Un peu trop facile, peut-être un peu trop gentil parfois. Il faut que, parce que c'est très drôle, mais pour enflammer, il faut être froid. C'est très étrange. Je parle là de la phrase sur la page. Et donc, pour arriver à cette densité de la phrase, les choses me viennent, je les attends pas, je les choisis pas, elles viennent. Mais elles sont mêlées de moi parfois. Il faut que j'enlève ce moi. Il faut que j'enlève ce moi. Et là, c'est un travail second. C'est un travail qui permet éventuellement de mettre une musique en arrière-plan.
Lélie ?
Oui, et d'ailleurs, cette idée, en fait, vous parlez beaucoup de musique et de ce que les musiciens, en tout cas les instrumentistes, les interprètes, ou même les compositeurs, justement nous laissent après la mort. Vous parlez quand même de cette mort de Glenn Gould et du fait que à un moment donné, il s'est tu, mais il continue quand même à vous parler. Vous parlez d'un disque que vous aviez de Oistrakh et Menuhin. Pareil, vous dites précisément, ils ne sont plus là, ils sont morts, et pourtant, ils sont encore là et ils continuent à m'habiter. Et ce qui est très beau dans le chapitre sur Glenn Gould, c'est que même votre appareil à musique rend l'âme,
oui.
Et vous ne pouvez plus l'entendre,
oui.
Et pourtant vous continuez
et continue.
À l'entendre.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et c'est peut-être ça, oui. Aussi la poésie, la vraie musique, la vraie poésie, c'est peut-être ce qui continue à se faire entendre alors qu'on a fermé le livre,
voilà.
Ou qu'on a éteint la musique.
Voilà, c'est quelque chose qui continue, c'est un chant qui continue même quand vous ne l'entendez plus, même quand vous n'avez plus rien, même quand c'est le silence, il y a encore ce chant autour duquel le poème tourne au fond, un peu de manière affolée, un peu paniquée, voyez ? Ce chant qui est à l'intérieur, qui est encerclé, qui est revêtu de la petite robe soufie du silence. Donc on ne l'a pas à nu, ce chant. Et il est même indicible, il est inaudible et vous l'entendez.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose des gens qu'on a aimés qui sont partis ?
Exactement, exactement.
Qui continuent de vivre en nous.
Voilà, voilà. Ce n'est pas uniquement qu'ils vivent là aussi, dans la mémoire. J'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un qui disait, je comprenais, c'était touchant d'ailleurs, quelqu'un qui disait, tant que moi je serai vivant, mes morts ne seront pas morts. Mais j'ai pensé tout de suite, c'est un peu triste, parce que alors, quand la personne va mourir, il y aura plein de morts qui vont arriver en même temps, à travers sa mort à elle. Et moi, ce que je vois, ce que je ressens, c'est que la frontière est poreuse entre cette vie et l'autre, entre ce monde et l'autre, entre ce qu'on nomme la vie et ce qu'on croit être la mort. La frontière est poreuse. À peine est-elle une frontière. Et je pense que, par exemple, Jean-Sébastien Bach, ou simplement quelqu'un que personne ne connaît mais qui nous a aimés ne fût-ce qu'une seconde, ont conçu pour nous des fruits que nous continuons de manger, de savourer, même après leur disparition. La limite est très très incertaine. Elle est si incertaine qu'il n'y a peut-être pas de limite entre ce monde et l'autre, entre ceux qui sont là et ceux qui n'y sont plus.
Mais ça, c'est ce qui traverse de toute façon toute votre œuvre. Hein. C'est que la frontière entre le visible et l'invisible, vous voyagez en permanence,
voilà.
De l'un à l'autre.
Voilà.
C'est Hölderlin qui dit le poète dit l'invisible. Je ne sais plus.
Oui, je pense. Oui, s'ils peuvent être nombreux à le dire
parce que c'est vraiment.
Oui, et le voyant de Rimbaud, il est certain que le poète a accès à quelque chose et surtout nous donne accès à ces visions intérieures. Et justement, pour ce que vous disiez sur l'amour, voici ce que vous dites dans un de vos chapitres, justement sur cette pérennité que nous donne l'amour, la pérennité à nous-mêmes, en quelque sorte. J'écoutais battre le tambour du cœur. Je sentais sur ma joue la main du soleil, un seul printemps, et c'était tous les printemps. Une seule seconde de vie, et la vie était vécue dans sa totalité. L'amour, c'est quand quelqu'un se met à vous parler comme une rivière, comme une étoile, ou comme la fleur du chèvrefeuille dont le parfum me saoule et saoulait hier celle qui n'est plus là, celle qui est sous la terre, celle qui n'est pas sous terre, mais auprès des anges dont elle sait désormais les prénoms. Dans la penderie du ciel bleu, une robe blanche, elle sort de la lessive de la mort, l'éternité la sèche. Nous recevons la nouvelle de la disparition d'un être aimé comme l'enfoncement d'un point de marbre dans notre poitrine. Pendant quelques mois, nous avons le souffle coupé. Le choc nous a fait reculer d'un pas. Nous ne sommes plus dans le monde. Nous le regardons. Comme il est étrange. Le moins absurde, ce sont les fleurs. Elles sont des cris de toutes les couleurs. La moindre pâquerette cherche désespérément à se faire entendre de nous. Sa parole, c'est sa couleur. Quand tu es morte, je suis devenue un drogué des fleurs. Les fleurs sont omniprésentes dans votre œuvre, à la fois dans leur forme et dans leur parfum, comme si elles tenaient sur leurs gouttelettes, sur leur forme impalpable, pour paraphraser Proust, l'édifice immense de la vie, pas seulement du souvenir.
Exactement, exactement. Je suis de plus en plus... je suis stupidement épris des fleurs, mais de plus en plus, de plus en plus. Je les vois comme des... C'est marrant parce que des fois, j'aurais aimé être un oriental. J'aurais aimé ça parce que je vois dans la parole et dans la fougue orientale, je sais qu'ils ont des choses que l'Occident, un peu assis, ne trouve pas, ne voit pas. Ils parlent beaucoup aussi des fleurs, les orientaux. Ils parlent du vin, des fleurs, Il parle de la beauté toute païenne de Dieu. De la beauté toute païenne de Dieu.
Qui se donne dans les roses, absolument, voilà. Dans les fleurs.
Et pour moi, les fleurs, ce sont des propositions faites au néant. Ce sont des paroles qui éclairent le néant. C'est une réponse. Une fleur est une réponse à quelque chose du néant et des ténèbres. Et la réponse est parfaite. La réponse éteint le feu de la question. La réponse d'une pâquerette, d'une jonquille, je cite quelques, ou de roses de jardin, je cite plutôt des fleurs qu'on ne va pas trouver chez le fleuriste, qui ne sortent pas des magasins un peu de chez les médecins légistes des fleurs. Et ces fleurs non commercialisées, trouvées comme ça dans les prés, ou le chèvrefeuille, des choses comme ça, je dis des choses comme ça, je pourrais presque dire des gens comme ça. Elles ont leur tête tournée vers nous. Elles sont au maximum tournées vers nous, au maximum.
Presque comme une métempsychose, comme si les disparus se réincarnaient dans les roses, dans les fleurs.
Pourquoi pas ? Une expérience, tenez, une expérience. Éprouvée, vécue, j'aurais du mal à la dater. Il y a quelques années.
J'en demande pas tant. Hein. L'expérience me suffit. Le fait concret me suffit.
Alors d'ailleurs, vous avez raison, parce que l'expérience va, elle s'est passée dans un temps, mais elle a arraché le voile du temps. Je suis au Creusot, dans un parc l'été, la nuit, qui s'appelle le parc de la Verrerie, qui est près d'un, qui est au bas, autour d'un château. Qui était la maison de maître des Schneider, qui a été une usine antérieurement, et puis qui a été une maison de maître, et qui maintenant est un musée. Bref, au bas de ce château, il y a quelques rosiers. Et on sait que les roses et les étoiles ont une conversation quasiment ininterrompue, subtile, secrète et ardente. La nuit fait monter le parfum. Et moi, je ne pense à rien. Je vais d'un point A à un point B. Je ne pense pas aux roses. Je ne pense pas aux livres. Je ne pense pas... Je ne sais pas trop ce que je fais, d'ailleurs, ce soir-là, dans ce parc. Mais peut-être j'allais rejoindre quelqu'un. Et il y a une nuit qui n'est pas une nuit, qui est plutôt une douceur, une quelque chose comme un bleu appuyé. Quand je passe tout d'un coup... parce que c'est la pleine lune. Et quand je passe devant ce rosier, les roses sont noires. Les roses que je sais être rouges sont noires, mais ce noir est brillant, est éclatant. Et leur parfum m'étourdit, mais m'assomme presque comme... C'est comme une attaque au coin de la rue, vous voyez ? C'est ça. C'est comme une agression, une sorte d'agression céleste, heureuse, angélique. Et je sais Je sais, c'est-à-dire il n'y a pas de mot, il n'y a pas de, de passage, il n'y a pas d'intermédiaire. À cet instant, je sais que les morts ne sont pas morts. Je sais que la que le monde n'est jamais qu'un entretien de tout avec tout, et un entretien dont la note de base est, est très heureuse, très vibrante. Peut-être celle-là que je retrouve d'ailleurs dans Bach, jouée par Glenn Gould, entre autres. Voyez, je le sais. C'est-à-dire que ça n'est pas le fruit d'une déduction, c'est juste l'entrée en moi d'un rosier charbonneux, comme ça, un peu barbouillé de clair de lune. C'est cette entrée en moi dans mon crâne, au fond. Pendant quelques secondes, mon cerveau est remplacé par ce rosier, au bas du parc de la Verrerie.
Vous êtes sur France Culture en compagnie de Christian Bobin. Nous parlons de son dernier livre paru chez l'Iconoclaste, L'Homme Joie. Puis nous parlons de tout, nous parlons de la vie, nous parlons de la mort. C'est peut-être la même chose d'ailleurs,
oui.
Hein, si on a bien compris, si on vous a bien écouté. Et là, j'aimerais savoir qui est cet auteur Thelonious Monk, que je ne connaissais pas.
C'est un grand pianiste de jazz qui lui aussi n'est plus de ce monde. Mais est-ce que nous sommes nous-mêmes vivants de ce monde ? C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Le meilleur de nous n'est pas de ce monde, au fond. C'est un pianiste qui est... On disait de lui que... Et on a pu l'entendre là, qu'il jouait toujours la note d'à côté. Il a réussi à être maladroit jusqu'au bout de sa vie. Et cette maladresse est juste le nom humble, le nom de servante de la grâce. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un morceau qui s'appelle « Crépuscule with Nelly ».« Crépuscule avec Nelly ». Nelly était sa compagne. Et il l'a écrit après la mort de sa compagne. Je l'ai vu un jour, il ressemblait à une sorte d'ours comme ça. Il était dans un aéroport et tournait sur lui-même d'angoisse, je pense, de malaise. Et ce malaise se dénoue quand on l'entend jouer. Il a un point commun, il a plusieurs points communs avec Glenn Gould. À un moment donné, de même que Glenn Gould a quitté la scène... n'a plus fait que des disques, Thelonious Monk a arrêté de jouer et il a été recueilli, on pourrait presque dire adopté, par une comtesse qui aimait beaucoup les joueurs de jazz et qui vivait avec une cinquantaine de chats dans sa maison. Et celui qu'on vient d'entendre s'est en allé tout doucement de sa propre vie, entouré par l'affection de cette femme originale et par les va-et-vient des chats. Notons bien que il est possible que ceux qui jouent le mieux du piano, ce ne soient ni Glenn Gould, ni Thelonious Monk, ni d'autres, mais juste un chat quand il saute sur un clavier. Ça, c'est là.
Ça donne une improvisation
vie
extraordinaire.
Ça, c'est la merveille, ça.
Ouais, ça m'est arrivé, j'ai trois chats et un piano, et je sais les sons qui sortent. Et on se dit, mais qui est en train de jouer ?
Oui,
c'est
si
pas
bien.
Un ange,
et si bien.
Mais c'est peut-être un ange à travers le chat.
Oui, oui.
Mais ce que vous venez de dire me fait penser le fait qu'ils aient arrêté. Je me suis dit, en vous écoutant, est-ce que vous êtes posé la question d'arrêter d'écrire, de vous dire, tiens, je n'ai plus envie d'écrire, ou peut-être qu'à un moment donné, je pourrais m'arrêter d'écrire.
Si je meurs avant de mourir, oui, ce n'est pas la peine, il ne faut pas que j'écrive. Il ne faut pas que j'écrive. Je peux écrire que quand je suis vivant. Je ne suis pas toujours vivant. Je ne suis pas toujours vivant. Et il faut pas écrire... Je ne souhaite pas écrire si c'est uniquement par expérience ou par acquisition de l'expérience, par habitude. Faut pas abîmer les choses comme ça. Faut pas. Mais vraisemblablement, j'écrirai Jusqu'à la fin.
Je crois qu'on se ressemble un peu. Hein. On écrit un peu par nécessité. Oui. C'est-à-dire qu'on sent qu'on n'a pas vraiment le choix. Il faut que ça sorte.
Oui.
Et en même temps, moi, je me pose des fois la question. Je me dis peut-être que ça me ferait du bien de, pendant un an ou deux, de plus rien écrire. Vous l'êtes posé cette question comme ça ou même pas? Vous prenez les choses comme elles se présentent au...
Je recueille beaucoup des fragments, si vous voulez.
Vous parliez du silence que vous avez vécu très longtemps avant d'écrire.
Oui.
Et des fois, on ressent qu'on a beaucoup écrit, ce qui est notre cas.
Oui.
Des fois, je me dis, on ressent peut-être le besoin de retrouver ce silence, cette non-productivité, ce désir finalement de peut-être se retenir pour découvrir autre chose.
Oui, ça peut, c'est quelque chose. Moi, j'ai une sorte de petite boussole comme ça, de bricolée comme ça, de fortune. Si elle indique cette direction-là, je la suivrai. Oui, je pense qu'il peut avoir une justesse, une sagesse parfois à ne plus apparaître, par exemple, à ne pas apparaître, à ne pas écrire. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non.
Bah, tant mieux pour nous.
Oui, alors je voudrais, puisque cette émission, tout doucement, est en train de se diriger vers sa fin et que notre fin n'est toujours pas assouvie, je voulais que vous nous parliez de la figure du Christ, de laquelle, que vous évoquez donc dans votre livre, de manière tout à fait saisissante, en particulier en disant que le Christ est un des plus grands poètes qui ait jamais été. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, si on revient à la définition qu'on donnait tout à l'heure de poète, c'est-à-dire poète, c'est pas quelqu'un qui fait des vers pour ornementer ou pour fabriquer un objet, mais évidemment un rapport au monde.
Voilà, c'est celui qui ouvre les portes du temps.
Voilà. Voilà. Alors, pour vous, dans votre histoire ou dans votre méta-histoire, que représente la figure du Christ ?
Oh, c'est la plus haute, la plus belle, la plus proche. C'est curieusement la plus haute et la plus proche. La plus haute, elle devrait être la plus lointaine. Et en même temps, c'est la plus proche. C'est je vais vous confier un secret devant un micro, mais ça, je vais essayer de le formuler en lui laissant une gangue de secrets. Je ne devrais pas d'ailleurs dire ce que je vais dire. Il y a un livre que j'ai écrit il y a quelques années, qui s'appelle Le Christ au coquelicot. Mmh. Et une grande partie des textes, des phrases de ce livre était au départ dirigé vers la plus que vive. Et je me suis aperçu que c'est, et pour moi c'est pas une trahison, c'est juste la même chose, c'est le même point. C'est derrière le visage dont j'ai parlé tout à l'heure, le visage de cette jeune femme définitivement éclairante par sa gentillesse aussi, ou par sa bonté. Derrière ce visage, il y a le visage du Christ. Il y a le visage du Christ vers lequel va au fond tous les mots d'amour. Au fond, tous les mots d'amour. C'est un drôle de gars. C'est un drôle de gars. Je le vois le mieux, c'est dans les textes de Grosjean. Ce matin, avant de venir vous voir, j'ai ouvert un livre de Grosjean, sa traduction de l'Apocalypse de Saint Jean. Et j'ai vu le monde s'effondrer. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vois souvent quand je lis une page de Grosjean. Le monde tombe à une lenteur incroyable et il y a une sorte de désencombrement de la pensée qui se fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai lu une phrase, mais incroyable d'ailleurs. Je pense qu'elle n'avait jamais été repérée parce qu'elle lui aurait valu un sac de pierre. Elle lui aurait valu d'être lapidée, je pense. Et commentant un verset de l'Apocalypse, il parle... J'essaie de vous le citer comme ça, c'est récent, donc je vais peut-être pouvoir l'attraper de mémoire. Il dit que les prêtres de Sumer et les spéculateurs en bourse, donc déjà c'est pas mal, mais on sent que ça commence très bien, il met tout ça sur le même plan, relèvent du banditisme légal, que la prêtrise relève du banditisme légal. Vous voyez, tout éclate. Et il poursuit, c'est ce banditisme légal qu'a fui Abraham dans son errance. Alors, sur une balance de pharmacien, il pèse chacun de ses mots, Jean Grosjean. Ce banditisme légal, c'est cela qu'a fui Abraham dans son errance, c'est juste une errance, ce qui est déjà pas mal. Et Jésus dans un nomadisme de l'âme, un nomadisme de l'âme. Je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le Christ est quelqu'un qui passe et qui est très étrange. C'est un sans domicile fixe, très étrange.
Et alors, ce qui est très touchant aussi, moi j'avais lu évidemment ce que vous avez déjà écrit sur lui, là vous allez, je pense, Lélie, nous lire ce passage, vous parlez de ce moment très très fort à la croix, vous parlez de la passion là, et de cette phrase « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qu'on lit souvent comme finalement la preuve que le Christ a douté, et vous dites exactement l'inverse, on va vous écouter.
Le Christ sort au matin de la vieille maison fatiguée du monde. Il a une trentaine d'années. Il n'emporte rien avec lui. Il commence sa vie buissonnière dont, après sa disparition, ses amis recueillent des lambeaux. La joie de l'air contre ses tempes, les confidences de l'eau entre ses mains, les éblouissements des renards qui croisaient son chemin, de tout cela rien ne nous est parvenu. Quelques paroles, dont la plupart empruntent leur beauté à l'univers patient des bergers, des pêcheurs, des viticulteurs. Voilà tout ce qui reste du passage sur terre du plus grand des poètes. Car c'est être poète que regarder la vie et la mort en face et réveiller les étoiles dans le néant des cœurs. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Cette parole du Christ est la parole la plus amoureuse qui soit. Chacun en connaît la vibration intime. Aucune vie ne peut faire l'économie de ce cri. Cette parole est le cœur de l'amour, sa flamme qui tremble, se couche et ne s'éteint pas. Elle est aussi bien la seule preuve de l'existence de Dieu. On ne s'adresse pas ainsi au néant. On ne fait pas de reproches au vide.
Ben, tout est dit.
Oui, tout est dit, enfin, je crois, parce que oui, c'est ça. C'est drôle, hein. C'est possible, au fond, que j'aille chercher la confiance, le brin de confiance, jusque dans la fournaise. Là, je n'invente rien dans ma lecture de cette parole du Christ. Je la ressens immédiatement comme ça. Et c'est le sommet du dialogue amoureux. Quand on bénit même la main qui nous tue.
Ben, je trouve, pour clore cette émission sur la confiance, voilà, on revient pour nous montrer ce que vous nous disiez tout au début, c'est que la confiance n'enlève rien au tragique de l'existence et au sentiment que nous en avons. Merci beaucoup, Christian Bobin.
Merci à vous deux.
Vraiment un très grand bonheur à nouveau de vous accueillir dans les Racines du Ciel.